Vous savez que c'était le début d'une grande histoire pour l'Afrique. Parce que Philippe a dû aller dans ses terres. Il a rencontré un Éthiopien. Et cet Éthiopien a parlé avec Philippe et il s'est converti. Et en tout cas, c'est le premier Africain qui s'est converti qu'on connaît. Et tout a commencé parce qu'un ange est intervenu auprès de Philippe. Ce qui l'a conduit à cet événement. Donc on voit que les anges guident et encouragent les serviteurs de Dieu. Il y a un autre aspect de la fonction des anges qui est peut-être moins connu. Mais on veut lire un passage dans Matthieu, chapitre 13. C'est une sorte de parabole. Chapitre 13, verset 24. C'est cette parabole qui parle de la mauvaise herbe et du bon grain. Et ici, il s'agit d'un homme qui avait semé du blé, la bonne semence. Et pendant la nuit, alors que personne ne voyait, un ennemi est venu semer de la graine, mais de la mauvaise herbe. Au début, on n'a rien vu. Le blé a poussé. La mauvaise herbe a poussé. Tout au début, on ne voit pas tellement de différence. C'était des graminées, elles ne se différencient pas beaucoup quand elles sont petites. Mais petit à petit, on a vu la différence. Et au moment de la moisson, le maître de la moisson a dit, mais prenez le bon blé d'un côté. Prenez les mauvaises herbes d'un autre côté et brûlez les mauvaises herbes. Mais qu'est-ce que ça voulait dire tout ça? C'est Jésus qui l'explique plus loin dans la parabole. On peut lire Matthieu 13. On demande à Jésus, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et au verset 37, on va lire la réponse. Parce qu'on voit que des anges représentaient les moissonneurs. Alors je propose qu'on lise du verset 37 au verset 43.
Bana ba mubi. Bantu batanisha lupela wafu losha wantu nemwikale nuku kunshikizulu watukono eti mwana wa mundu ne atume banjelo banji ne basumu tule mukukelelo wanji benji bamatu mabi ne bintu byonsu bibi bilendwisha bantu ne babyele mushukutu cha kabya mwaji newekaleku nekusumakala kwa meto jitu kujaja bantu bakale ne bakenge mujiba mukukelelo watatu wabo kuti ne mwatu afungwe janji.
Alors qu'est-ce que Jésus nous révèle? C'est que les anges participent. Les anges sont les moissonneurs. Alors à un moment donné, Dieu exercera un jugement. Alors la bonne semence, ce sont les croyants, les enfants du royaume. Et puis, la mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. Ce sont ceux qui ont refusé l'évangile. Et là, ils seront éloignés de Dieu. Et c'est aux anges de participer à cette, on dirait, une action judiciaire. Il y a un jugement de Dieu. Et les anges exécutent ce jugement de Dieu. Donc il y a d'autres exemples dans la Bible qui nous montrent que les anges participent à ces actions judiciaires de Dieu. Donc ils sont des exécuteurs du jugement de Dieu. Il y a aussi un autre passage dans la Bible qui parle de ce même sujet. C'est dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, le chapitre 1 et les versets 7 à 8. Maintenant, j'aimerais, sans changer pas de sujet, j'aimerais changer mais pas le sujet, mais parler des anges dans la vie du Seigneur Jésus. Et on verra que les anges ont accompagné toute la vie du Seigneur Jésus sur la terre. Dans les premiers, les chapitres 1 et 2 de Luc, on voit que l'annonce faite à Marie est faite, l'annonce de la naissance de Jésus est faite par un ange. On peut lire Luc chapitre 1 verset 26.
Luca chapitre 1 verset 26
à 28.
Tony wa makumi abiri mwanda mukuru.
Kuti mukashi wakatikita mama mubanga kuti mulume jina ya Yosefu wa muchota cha Davidi jina ya mukashi au Maria mwanjelo wakandwa kutiye wakamane moyo wa kukukwila kute lwa bumi mukelenge kutineye.
On a lu seulement le début, mais on voit que c'est un ange qui vient vers elle. et tu lui annonces qu'elle sera enceinte sans connaître d'homme. Quelle est sa réaction? Elle était très troublée et elle a eu peur. Et l'ange l'accompagne pour l'aider à surmonter, j'allais dire, cette surprise. C'est l'ange qui lui dit, n'aie pas peur. C'est l'ange qui lui dit ce qui va se passer dans les prochains temps.
C'est
l'ange qui est là pour la garder et l'accompagner. Et finalement, quand Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi.
Elle
a accepté cette nouvelle situation.
Et
il est dit au verset 38, et l'ange la quitta. Alors on voit qu'un ange n'est pas venu lui dire quelque chose, reparti. Mais il l'a accompagné dans cette circonstance unique. Et puis à la naissance de Jésus, on
ne
voit pas seulement un ange, mais des milliers d'anges qui accompagnent, qui apparaissent au berger. C'est dans le chapitre 2. On peut lire chapitre 2, verset 9 à 14. Alors on voit que la naissance de Jésus est accompagnée par comme une fête pour les anges. Ces bergers sont là au milieu des champs la nuit. Un ange vient
et
leur annonce une bonne nouvelle. C'est la naissance du Sauveur, le Messie. Et tout à coup, une foule d'anges se joint à cet ange pour louer Dieu de cette naissance de Jésus. Il y a encore d'autres manifestations quand Jésus était tout petit, où des anges sont intervenus. Et cette fois, c'est dans l'évangile de Matthieu. C'est des anges, ici, il y a trois exemples, où les anges accompagnent Joseph.
Et tu m'en as bien dit ça tout, j'ai banché l'homme avec qui j'ai déjà Joseph.
Pour l'encourager, parce qu'il aussi, il savait pas trop ce qui se passait.
Bon, comment quand il a boit le café, il demande si il demande pas qu'il arrête de
sa femme était enceinte, il s'était pas marié avec elle.
Moi, quand j'ai un nouveau négifou, quand j'ai beaucoup de banques qui galèrent avec moi.
Qu'est-ce qu'il devait faire? Bien sûr, un ange qui le rassure.
Matthieu chapitre 1, verset 20.
Matthieu chapitre 1, verset 20.
Matthieu chapitre 1, verset 20.
Chapitre 1, verset 20.
Chapitre 1, verset 20.
Et on voit que un ange encourage Joseph. Mais plus tard, Joseph va de nouveau être visité par un ange.
Chapitre 2,
verset 13. Mais la situation, le contexte est le suivant. On sait qu'à un moment donné, le roi Hérode voulait tuer tous les petits-enfants. Pour éliminer ce, j'allais dire, ce petit roi. Mais les anges interviennent pour protéger cette famille de Joseph, Marie
et de Jésus.
Matthieu 2, verset 13.
Matthieu, chapitre 2, verset 13.
Alors on voit que Joseph est averti de ses intentions d'Hérode.
Et c'est
un ange qui lui indique comment échapper. On voit que les anges suivent cette petite famille pour la protéger. Joseph est parti en Égypte.
Et
après un certain temps, le roi Hérode qui voulait tuer Jésus est mort. Et c'est de nouveau un ange qui indique à Joseph, mais tu peux rentrer de nouveau en Israël.
C'est
Matthieu 2, verset 19 et 20. On va retrouver les anges au début du ministère de Joseph. Ici, Jésus était encore tout petit, mais la famille courait des dangers.
Et
c'est des anges qui ont guidé cette famille pour la protéger. Maintenant, Jésus a grandi. Il a environ 30 ans. C'est le début de son œuvre, de son travail, de son ministère. Et la première chose qui s'est passée, presque, c'est que Jésus a été emmené dans le désert pour être tenté. Pour être tenté pendant 40 jours. Et Jésus était parfaitement Dieu. Mais il était parfaitement un être humain comme nous aussi. Et il a subi dans son corps toutes les difficultés de la tentation. Il était tenté par le diable. C'était une épreuve terrible. Mais Jésus a résisté. Et alors il est dit, Matthieu 4, verset 11. Matthieu 4, verset 11. Le diable laisse Jésus. Mais voilà des anges sont venus servir Jésus après la tentation. On imagine son corps après 40 jours de jeûne. Il avait besoin d'être fortifié et encouragé. Jésus a été encouragé par des anges à la fin de son ministère, comme on dirait. Il a travaillé pendant 3 ans à peu près, jusqu'au moment de la Pâque. Quand Jésus était retourné à Jérusalem pour vraiment accomplir l'œuvre de la croix. Et là aussi, un ange intervient. On le voit spécialement dans l'évangile de Luc. Chapitre 22. Jésus est à Jérusalem. Il a quitté un peu ses disciples pour aller prier au jardin de Gethsémani. Et maintenant, c'est ce combat dans la prière. Il parle à son père. Mais père, si tu voulais m'éviter de faire tout ça, et de notre côté, il dit, mais que ta volonté, Père, soit faite. Et c'était comme un combat intérieur. Il est là devant Dieu. Et qui est venu le fortifier? On le lit dans Luc 22, verset 43. Luc 22, verset 43. C'est un ange qui vient le fortifier. c'est quelque chose qu'on peut, on ne veut pas se comparer avec Jésus. Mais quand on est seul devant une grande difficulté, ça fait du bien qu'une autre personne vienne nous accompagner. C'est plus facile de se sentir à deux que de se sentir seul. Et là on voit que Jésus qui était très seul parce que les disciples ne comprenaient rien à ce qui se passait. Dans ce sens, il était très seul. Il était incompris. Et la présence de cet ange l'a encouragé à persévérer. De nouveau, il faut se souvenir, Jésus était parfaitement Dieu. Mais qu'il était aussi parfaitement un être humain comme nous. On le voit plus loin, il était angoissé. Et on peut comprendre un peu sa souffrance. De nouveau, c'est un ange qui intervient. Un ange interviendra plus tard, mais c'est après la résurrection. À la résurrection, il y avait un ange devant le tombeau. Mais entre ce combat de Gethsémané et le matin de la résurrection, on ne trouve pas de manifestation des anges. On voit que Jésus s'avance seul. Et qu'il affronte les circonstances seul sans l'intervention des anges. Spécialement au moment sur la croix. Quand on se moquait de lui, on lui disait, mais descends de la croix. Et c'est vrai qu'il aurait pu le faire. Il avait dit, mais j'ai 12 légions d'anges à disposition. Mais Jésus voulait vraiment affronter la mort jusqu'au bout. Et je pense quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était pas un moment où les anges pouvaient intervenir. C'est quelque chose qui se passait entre lui et son père. Ce moment où il portait sur son corps tout le poids de mon péché, de nos péchés. Il fallait qu'il accomplisse cette œuvre jusqu'au bout. Et sur la croix, il était seul. Une situation qu'on ne peut pas comprendre. Mais on voit dans les Philippiens, on va bientôt vivre cette époque de Pâques, hein, avec vendredi de Pâques. Et c'est l'occasion de se souvenir peut-être plus en détail de ce qui s'est passé. On va lire dans Philippiens 3. Philippiens 2.
Philippiens 2.
Verset 6. À la fin du paragraphe.
ndambi muchintu cha kulakinyina ikole
Verset 6, je pense que ça vaut la peine de lire 6 à 11.
Jésus était seul sur la croix. Il a pris toute cette œuvre sur lui-même. Et les anges réapparaissent après la résurrection. À plusieurs occasions. D'abord devant le tombeau vide. Et le matin de la résurrection, il y a quelques femmes qui étaient très tôt en route vers le tombeau. Elles étaient très tristes. Elles avaient un grand souci. Qu'est-ce qui les préoccupait? Est-ce que vous vous souvenez? Elles aimaient. Devant le tombeau, il y a une grande pierre. Qui va nous rouler la pierre. Pour qu'on puisse entrer dans le tombeau et embaumer le corps du Seigneur. Et quand elles arrivent, qu'est-ce qu'elles voient? Le tombeau était ouvert.
Elles
s'étaient faites du souci pour rien.
Et
qui avait ouvert le tombeau? La parole nous dit que c'était un ange aussi. Alors elle, comment est-ce qu'elles ont compris cette situation? On se fait du souci pour quelque chose, et puis la solution existe déjà.
Et
je me demande si dans nos vies, des fois, on prie, et il y a des situations qui nous préoccupent. Et puis tout à coup, il y a une décision qui est prise par quelqu'un. On va dire, ah, c'est le Seigneur qui a répondu, ou c'est ben voilà, on a eu de la chance. Mais c'est peut-être aussi un ange qui est intervenu.
Je ne
sais pas comment vous voyez les choses, mais en y réfléchissant, c'est très possible que dans nos vies, des anges interviennent On ne le sait pas. Et Dieu
a
dit, ah ben c'est normal.
Mais
je pense qu'il faut être reconnaissant pour toutes les bonnes choses qui nous
arrivent.
Alors voilà pourquoi, donc, quand elles sont arrivées, en fait, il y avait aussi un ange qui était là qui leur a parlé. Et qui a dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Puis après, Jésus est quelques temps, quelques jours avec ses disciples. Et puis au début des Actes, on voit que Jésus monte au ciel. Et les disciples voient Jésus monter. Dans un évangile, on voit que Jésus monte en bénissant. Et il disparaît dans la nuit. Et tout à coup, deux hommes en vêtements blancs parle aux apôtres. On lit dans Actes chapitre 1, les versets 9 à 11. Et alors les disciples retournent à Jérusalem. Et c'est là qu'ils recevront l'Esprit, le Saint-Esprit. Et comme on l'a entendu hier par le frère Michel, c'est à ce moment-là que le début de l'Église, c'était le début de l'Église. Et les anges interviendront aussi au retour du Seigneur. Il y a plusieurs passages de la Bible qui l'indiquent. On va en lire un seul, c'est Matthieu 25, verset 31. Alors on voit que Jésus reviendra et qu'il sera entouré. Alors je trouve très beau cette vie du Seigneur Jésus. Sa relation avec son Père. Son Père qui a toujours envoyé ses anges à certains moments clés de la vie de Jésus. Maintenant, on va passer au chapitre de la les anges dans la vie du croyant.
Ça nous concerne, nous.
On a vu hier, on a commencé en lisant le premier chapitre d'Hébreu.
C'est
là où on a lu que les anges sont des esprits administrateurs pour envoyer, pour servir. Pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Donc, c'est nous. Les anges sont toujours prêts à nous aider. Hier, j'avais mentionné ce verset 34, ce verset du psaume 34. L'ange de l'Éternel protège, campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. C'est une réalité qu'on peut vivre dans notre vie avec le Seigneur. On voit que des gens sont intervenus dans la vie de l'apôtre Paul. Pour l'encourager. C'est dans Actes 27. Les versets
23-24.
C'était lors d'une épreuve difficile, ce bateau qui chavirait, qui s'enfonçait dans l'eau.
Actes 27, versets 23 et 24.
Il y a des moments dans la vie où on ne sait plus très bien ce qui se passe. On a lu le passage.
Non, on n'a pas encore lu.
On n'a pas lu. Une circonstance où Paul tout à coup pouvait se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie maintenant? Quel est le but de cette... Et c'est un ange qui lui révèle le plan de Dieu. Maintenant, on va lire aussi dans Matthieu
18:10.
C'est encourageant de connaître ce passage qui nous montre que les enfants, les petits-enfants sont très importants pour Dieu. Et c'est comme si des anges étaient au service de ces petits-enfants. Et qui vont les protéger, les entourer, les suivre. En français, on a cette expression d'ange gardien.
mo fachaka fachaka kuji chambile chicha mwanje no mulami.
Je pense que ça vient de ce verset.
Ndumaine bole budi bumbukile ku mvese.
Bon, il faut faire attention après de ne pas adorer les anges.
Na manya kane kuku kuile banje.
Les anges adorent Dieu comme nous on adore Dieu.
Banje lo ni twetwe tujituku kuile nzambi.
Il faut faire très attention aussi de se dire, ben, je vais parler aux anges.
Mais ce
n'est pas comme ça que tout cela est structuré. Donc les anges nous protègent, nous délivrent, mais ils nous voient aussi. Ils sont comme des témoins. Et j'aimerais qu'on lise un verset dans 1 Timothée 5, verset 21.
1
Timothée 5, verset 21.
Kutumikila malu aku malu a kui kui mujaji le kukosa walu nunda mwebe ne kui ne kasuna kuna
5:21 anu versa makula.
Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée.
Ava mpose Paul du fungi na Timothée
et qu'il l'encourage à être fidèle, à ne pas avoir de préjugés, ne pas faire de favoritisme, parce que Timothée était aussi responsable. Ça veut dire responsable d'une église, dans un sens il y avait des responsabilités dans une église.
Et
il l'encourage à être fidèle. Et il prend comme témoin Dieu. Le Seigneur Jésus. Et les anges élus. Donc les anges élus nous voient aussi.
Elles
pouvaient voir aussi ce que Timothée allait faire. Donc les anges nous regardent. Ils sont intéressés à ce qui se passe dans l'église aussi. Mais il y a un verset qu'on n'a pas encore lu. C'est 1 Corinthiens 11, verset 10.
Le verset 10.
Oui, les anges nous voient dans l'église. Alors on en a parlé hier. Alors je n'aimerais pas recommencer une discussion. Mais j'aimerais peut-être prendre le problème par un autre bout. On sait que les anges ont été créés avant la création du monde. Ils ont aussi vu que Dieu a créé l'homme et la femme. Ces deux êtres humains bantu babijaba
égaux mais complémentaires différents
bikale mumwe kadi bikale bakwati shangana kadi bashilanga.
Donc tu as un homme de sexe mâle,
kodi muntu mulume,
une femme de sexe femelle,
ne muntu mukashi.
Et pour Dieu c'est une chose sainte
wanzambi ebumbolu kwachijila
de bien différencier l'homme et la femme.
Ils
ne sont pas simplement interchangeables.
Et
on voit à travers la Bible que cette différence entre l'homme et la femme doit être respectée.
Et
tout au cours de la Bible, on voit que Dieu est complètement opposé à toutes ces pratiques sexuelles, homosexuelles ou...
Mumuka, oui.
Je pense qu'en Afrique, on est encore très pour cette séparation.
Mais
dans notre monde, en tout cas européen, en Suisse aussi, on va de plus en plus vers le mariage pour tous. Homme-homme, femme avec une femme. Un homme avec un homme peut avoir un enfant par des moyens médicaux. Et ça, on nous dit, on doit l'accepter, même les chrétiens. Sinon, vous êtes
intolérants.
Et là aussi, dans l'église, on a montré qu'un homme est un homme.
Et
qu'une femme est une femme.
Et
qui doit être différencié du monde.
Je vais
dire à l'époque où ça a été écrit. Il y avait l'église.
Pardon.
Il y avait l'église avec les croyants. Mais il y avait aussi d'autres pratiques, d'autres religions. Avec des cultes païens. Avec des faux dieux. Et par exemple des femmes qui se prostituaient dans ces sanctuaires. Avec des fois la tête rasée. Donc il ne fallait pas que les chrétiens adoptent ce genre de tenue.
Et
puis il y avait aussi des hommes avec des longs cheveux qui témoignaient d'une aversion sexuelle. Ils voulaient être comme des femmes. Et là, il fallait vraiment que les choses soient différenciées entre l'église, hommes et femmes. Et le monde païen où il y avait un grand mélange. Alors voilà, ça fait réfléchir. Parce que ces différences étaient dans un contexte particulier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence entre un homme et une femme? Quand j'étais petit à l'école, les filles n'avaient pas le droit de porter de pantalon.
Je
devais rentrer à la maison, se changer et revenir.
Maintenant,
soixante ans,
soixante ans après,
c'est plus la même chose. Une femme porte des pantalons, personne ne dirait que c'est un homme. Donc on voit que ce contexte change aussi pour nous. Alors voilà, ce que je peux dire, c'est que la tenue d'une femme doit être celle d'une femme. Celle d'un homme, un homme. Ça doit être décent. Maintenant, quant à la couverture, je ne veux pas trop en parler parce que ça peut donner des discussions. Mais si un ange voit une sœur avec des longs cheveux, moi, il sait que c'est une femme. Alors, s'il faut mettre un chapeau par-dessus, bon, je m'arrête. Non, je
ne
veux pas. Ça fait des grandes discussions parce qu'on peut discuter des heures et puis. Mais les anges me regardent. Et dans l'église, les chrétiens doivent avoir une bonne tenue en respectant cette différence des
sexes.
Maintenant, les anges nous visitent aussi. Il y a un exemple fameux dans l'Ancien Testament. C'est dans Genèse 19. C'est Abraham qui vivait avec ses troupeaux dans le désert, en dehors des villes en tout cas. Et je pense qu'il se reposait devant sa tente. Non, c'est pas 19. Ça serait 18.
Chapitre
18, on voit qu'il est à l'entrée de sa tente. C'est peut-être qu'il fait la sieste dans la chaleur du jour. Tout à coup, il lève les yeux. Puis il voit trois hommes qui viennent de son côté, qui passent. Alors quand il les voit, il se lève, il court vers eux, puis il les invite. Il pratique l'hospitalité. Il y a des étrangers qui passent, on va les inviter, les rafraîchir. Et il commence à discuter. Et c'est là qu'il révèle à Abraham qu'il aura un fils. Et ensuite, ces hommes se lèvent pour partir.
Il
est dit que alors l'Éternel dit à Abraham, on se représente la scène comme ça, un homme reste avec Abraham. Et deux autres continuent leur chemin vers la ville de
Sodome.
Et plus tard, dans les chapitres suivants, il est parlé de ces deux hommes comme des anges. Donc Abraham avait accueilli en fait trois anges.
bulele la abal homo gai kwa kijila banji ruba sat.
Et un reste avec Abraham.
Umu shala nanji.
Et l'ange lui dit, mais Abraham est mon ami.
Luamana abal homo mulunda wai.
Je vais lui dire ce qui va se passer.
Bulele la njuma mlechi jamalo wanze kau.
Et il lui parle de détruire Sodome.
Luma amne to kutu ya yekung boku yoko sha Sodome.
Et c'est là où Abraham prie. En disant, mais s'il y a encore 100 hommes qui sont croyants, Et il est dit, après cette discussion, Genèse 18:33. Genèse 18, verset 33. Il est dit, l'Éternel s'en allait lorsqu'il eut fini de parler à Abraham. Et Abraham retourna chez lui. Ces deux hommes se séparent. L'un c'est Abraham. L'autre, c'est cet homme qui s'appelle l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel. Probablement Jésus-Christ lui-même. Et tout ça avait commencé parce qu'Abraham avait pratiqué l'hospitalité. Alors maintenant, il y a un verset qui nous dit, quand on pratique l'hospitalité, on risque
d'égorger.
C'est Hébreux 13, verset
2.
Non. Oui, alors les anges peuvent nous visiter.
Bangelo, bagimo kutukumbula.
Et puis les anges nous conduisent aussi, nous accompagnent. On voit, par exemple, dans Exode 23, c'est Dieu qui parle, il révèle ces choses à Moïse qui les écrit. Dans la période de l'Exode, le peuple est encore dans le désert. Mais Dieu fait déjà des promesses quand ils arriveront dans le pays de
Canaan.
Et il veut encourager le peuple à rester fidèle. Et on peut lire au verset Exode 23, verset 20.
Voilà,
Donc l'Éternel. L'Éternel dit, voici, j'envoie mon ange devant vous. Le peuple aura comme un guide qui va l'introduire dans le pays de Canaan. Et il dit, mais
Moi,
Mon nom est dans cet ange.
Dina djani didi mumange loewu.
Ça veut dire c'est l'ange de l'Éternel, comme je comprends.
Nkwambani bilandisha ngubulwani mwanje lo wachendelele.
On voit que avant que ça se passe, Dieu avait déjà promis d'accompagner son peuple.
Il y a
encore un autre aspect. On voit que Dieu envoie des anges pour communiquer des messages particuliers. Mais ils n'ont pas le privilège d'annoncer l'évangile. On ne les voit pas faire de l'évangélisation. C'est intéressant. Parce que ça nous montre quelle est notre responsabilité comme
croyants.
Les anges ne peuvent pas dire « J'étais perdu, mais maintenant je suis sauvé. » Ils
ne
peuvent pas témoigner de ça personnellement. Cette tâche est réservée aux vrais croyants. Seul un homme, un être humain, peut témoigner du salut de Dieu. Par contre, les anges encouragent les hommes à évangéliser. On a vu un ange aller vers cet homme,
Philippe,
pour l'envoyer évangéliser un Éthiopien. J'aimerais encore voir l'intervention des anges. Dans l'histoire de Corneille, ça vous dit quelque chose,
Corneille?
C'est au début des Actes. Corneille était un important chef romain, un militaire, mais qui aimait Dieu, qui recherchait Dieu, mais il ne connaissait pas Jésus.
Mais
il était respectueux de Dieu. Et Dieu va intervenir dans sa vie au moyen d'un ange. Cet homme a une vision. C'est dans Acte 10, un ange entre chez lui.
Elle
l'appelle
Corneille.
Et l'ange lui dit, tes prières et tes dons ont été vus et entendus. Et envoie des gens à Jaffa. Et faites revenir et trouver un homme qui s'appelle Pierre. Et fais-le venir chez toi. On voit que un ange intervient dans la vie d'une personne qui ne connaît pas Jésus.
Et
cet homme va suivre les conseils de l'ange. En même temps, Pierre, de son côté, l'apôtre Pierre, a aussi une vision.
Et
il sait que des hommes vont appeler chez lui et l'emmener chez ce Corneille. On voit que les anges interviennent à plusieurs
endroits.
Et c'est ainsi que Corneille connaîtra le Seigneur Jésus, se convertira. Et je pense que c'est très encourageant de savoir ça. Que des anges parlent aussi à des non, c'est-à-dire à des non-croyants. Mais je
ne
sais pas si vous savez, mais dans les pays musulmans, où les chrétiens sont souvent persécutés, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui recherchent Dieu, mais qui ne le retrouvent pas dans leur religion. Je connais plusieurs témoignages, j'en ai entendu d'autres. Où à un moment donné, ces personnes ont comme une vision. Certains parlent d'un homme en blanc. Mais
ce
n'est pas une règle. Hein,
c'est...
Et puis leur donne une instruction. Allez dans tel et tel endroit, il y a quelqu'un qui vous attend. Aujourd'hui, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous verrez ce qui va se passer. Et des gens arrivent comme ça en contact avec des chrétiens. Ou avec la Bible. Et je pense que Dieu travaille encore comme ça dans ces pays où il y a des personnes qui recherchent Dieu mais qui n'ont pas la possibilité de vraiment connaître Jésus d'une autre manière. Je
ne
sais pas si vous aviez entendu ces témoignages, mais... Mais c'est impressionnant parce que les gens qui se convertissent dans ces pays musulmans sont persécutés, rejetés loin de la famille. Maintenant, les anges aussi se réjouissent de l'évangélisation. Vous connaissez les paraboles de Luc
15.
Quand cette femme qui a perdu une pièce la retrouve, tous les anges du ciel se réjouissent. Et il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. D'accord. Alors, le dernier point, c'est quand le Seigneur viendra nous chercher, quand tous les croyants seront rassemblés au ciel, est-ce qu'il y aura des anges? Certainement, oui. Parce que l'apôtre Jean, quand il voit la nouvelle Jérusalem dans le ciel, qui représente un peu cette habitation où il y aura tous les croyants, bien, il rapporte dans l'Apocalypse qu'il a vu des anges des anges qui étaient là aux portes de la ville. Alors, je m'arrête ici. J'ai fait imprimer encore une feuille, mais que vous recevrez plus tard. Pardon. Ah, d'accord. C'est un résumé que j'ai trouvé. Qui tient sur un recto verso. Mais j'ai pensé que ce serait bien que chacun l'ait parce que ça donne les choses essentielles.
C'est
très bien fait. Et comme ça, vous pouvez, vous avez les choses essentielles avec vous. Alors, je vous remercie pour votre attention.
Merci.
Merci pour la traduction.
Alors, nous allons reprendre le sujet du livre des rois.